Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon seigneur de la mer préféré, je vous présente Guillaume.
Wesh.
Et on se retrouve pour le chapitre 57, soit le cinquième chapitre de Sansa, si je dis pas de conneries.
C'est ça. Donc on va retrouver une Sansa toujours captive aux mains des Lannister. Elle a par contre toujours le droit de circuler au sein du Donjon Rouge, et elle vient assister à l'audience inaugurale du règne de Joffrey. Et durant cette séance, vont être cités les opposants à la couronne, puis va être nommé Tywin Lannister en tant que nouvelle main du roi, suit alors la nomination de Cersei en tant que reine régente, et l'anoblissement de Jon Slynt, qui sera nommé Lord de Arryn-Hall, et qui va siéger au Conseil Restreint. Le clou du spectacle, quand même, c'est la destitution de Ser Barristan Selmy, de la garde royale, au profit de Jaime, qui va devenir le nouveau capitaine, mais il refuse et jette son épée au pied de Joffrey avant de quitter la salle. Sandor Clegane va prendre la place vacante au sein de la garde royale, même s'il refuse de faire ses vœux de chevalerie. À la fin de l'audience, Sansa demande le pardon pour son père, et Joffrey va lui promettre de faire preuve de miséricorde si Ned accepte de reconnaître sa faute et de ployer le genou.
Et c'est Eddard Stark, le roi qui ploya le genou, tel Thorin Stark.
Pas encore.
Donc le chapitre débute dans la salle du trône du Donjon Rouge où Sansa se trouvait. Cersei lui avait accordé la sortie de ses appartements situés dans la citadelle de Maegor, mais elle ne pouvait sortir du Donjon Rouge et était toujours gardée au plus près. De plus, où pouvait bien-elle fuir? Les portes de la ville étaient gardées par les manteaux d'or, et puis au final elle n'avait nulle part où aller. C'est vrai que Sansa se retrouve dans une situation assez compliquée parce que elle a plus aucune présence familiale, non. Elle est enfermée, littéralement.
Oui.
Donc, tu me diras, c'est elle-même qui s'est foutue dans cette merde toute seule, hein. Mais on rappelle, Sansa, elle a 11 ans, c'est encore qu'une enfant. Et c'est quand même de la faute de Ned et de Catelyn, hein.
Oui, mais c'est si bon de la détester. J'aime la détester.
C'était le jour de l'audience inaugurale du règne de Joffrey, mais quand elle voulut saluer les seigneurs qui se trouvaient dans la salle du trône, ceux-ci faisaient semblant de ne pas la reconnaître. On comprend que le mot est passé, hein, que Sansa c'était à présent la fille d'un traître, que voilà, maintenant fallait la traiter comme une paria et puis ne pas se risquer auprès d'elle. Sinon, on risquerait de se retrouver sous la fureur de Cersei, quoi. Donc, dans la salle du trône, elle y vigile la barre chaud, le prince en exil des îles d'été, les jumeaux Red Wine, qu'on appelle plus communément Guillaume.
Horreur et baveur.
Aaron Sontagar, le maître d'armes de Port-Réal, ainsi qu'un certain Lord de Gilles. Donc première fois que ce Lord de Gilles est cité, et il n'apparaît pas dans les appendices.
Ça tombe bien, j'ai pas regardé.
Seul le soulard Ser Dontos voulut lui parler, mais un mot de Ser Balanswan suffit à le calmer. Guillaume, tu te rappelles de qui est Balanswan?
Je sais que c'est un banneret des Baratheon.
Ouais. Et donc un des chevaliers apparut lors du tournoi de la main. Joffrey apparut enfin dans la salle du trône, et le grand maître Pycelle lut, pour commencer la séance, la liste des personnes qui devaient venir à Port-Réal jurer fidélité à Joffrey. La liste est assez longue, mais en gros, on a Stannis et sa famille, Renly Baratheon, ainsi que les Tyrell, vu que Renly s'est enfui en leur compagnie, en compagnie de Loras Tyrell, les Stark, bien sûr, les Arryn, les Tully, ainsi que les chevaliers envoyés par Ned exécuter Gregor Clegane, etc., etc. Bref, en fait, la liste est vraiment longue, quoi. Quatre choses à noter. Premièrement, on apprend que l'héritier de Walder Frey se nomme Stephen Frey, Sir Stephen Frey. Deuxièmement, que Doran Martell, ainsi que ses fils, doivent venir jurer fidélité. Donc, Guillaume, est-ce que tu te rappelles un peu qui c'est Doran Martell?
C'est le prince de Dorne.
Ouais. Mais du coup, chelou qui viennent de jurer fidélité, parce qu'en fait, les Martell ne participent aucunement au conflit qui est en cours au sein des sept couronnes.
Ouais.
On comprend que Joffrey, il a vraiment dû citer tout le royaume, quoi. Alors, troisième chose, qui est une chose assez étrange, c'est que lors de Bryce Caron Démarche, doit aussi venir jurer fidélité. Donc, Guillaume, est-ce que tu te rappelles un peu de ce sir, enfin de ce lord Bryce Caron?
Il est apparu pendant le tournoi.
Ouais.
Ouais. C'est pas lui le meilleur archer?
Non.
Putain, je me souviens plus.
Bon, est-ce que tu te rappelles ce que c'est les marches?
C'est les marches de Dorne.
Ouais. Donc. Mais qu'est-ce que c'est les marches de Dorne, je veux dire?
Bah, c'est des montagnes à Dorne.
Ouais, c'est ça. C'est une chaîne de. Alors, c'est pas à Dorne. C'est pas du tout à Dorne.
À l'entrée de Dorne.
C'est sur la terre, c'est sur les terres de l'orage.
D'accord.
Mais, du coup, en fait, ce qui est étrange, c'est que, déjà, les Caron sont des Bannerets et des Baratheons. Donc, pourquoi déjà ils devraient venir jurer fidélité à Geoffrey? Parce que, enfin, de base, Geoffrey, c'est un Baratheon. Donc, il a déjà sa fidélité, en fait. Et deux, Bryce Caron était présent lors du tournoi, donc pourquoi il le rappelle? Enfin, tu vois, quand il fait la liste, c'est étrange parce qu'il est cité en plein milieu de gens, ok, enfin, c'est leurs ennemis, mais alors lui, c'est un chevalier dont on n'a pas, enfin, pour l'instant, dont on n'a pas entendu parler de façon, je veux dire, notable, qui normalement devrait se trouver à Port-Réal, vu qu'il était là pendant le tournoi de la main. Donc pourquoi Geoffrey lui demande de jurer fidélité à lui, tu vois? À moins que vraiment, il ait cité tous les chevaliers du royaume. Mais ça c'est pas. Donc s'il a pas cité tous les chevaliers du royaume, enfin les seigneurs du royaume, pardon, pourquoi il lui demande de jurer fidélité à un seigneur qui est de base son banneret?
Oui, c'est très bizarre.
Enfin, Arya Stark était aussi dans la liste, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été encore capturée. Donc Arya, on savait qu'elle était sortie, parce que le sort de passage secret, là, dans la cave, dans le rouge, on sait pas trop quoi. Mais bon, c'est pas trop ce qui lui est arrivé après ça, quoi.
Non.
Plusieurs autres annonces sont aussi faites. Premièrement, que Cersei Lannister remplace Stannis Baratheon au sein du Conseil Restreint. Donc, c'est vrai que là, à la fin de ce chapitre, les places du Conseil Restreint vont être un peu chamboulées. Mais bon, on y reviendra à la fin. Deuxièmement, que Tywin Lannister est à présent la main du roi. Mais bon, ça va être compliqué pour lui d'assurer ses fonctions vu où il se trouve.
Mais ce qui est bizarre, c'est que Cersei Lannister, du coup, elle est maître des navires.
Ouais,
navires. En mode, elle a zéro compétence en navire. Genre.
Mais après, bon, je pense que c'est un peu du truc, genre, où elle est là, ouais. Mais c'est pas pour, c'est juste pour être dans le conseil, quoi.
Ouais, c'est comme celui qui va venir, Janos Lint, prend même pas. En fait, il y a même plus de siège spécifique, ils s'en battent les couilles, ils mettent les potes, ils font croquer la famille. Et
c'est ouais, tout. C'est ça. Mais Tywin Mandurois, et c'est un poste qu'il retrouve. Je lui conseille qu'à un moment donné, il a été Mandurois sous Aerys II Targaryen.
Ouais, Tyrion, dans le précédent chapitre, il avait présenté Tywin comme ancienne et future Mandurois.
Ouais, d'ailleurs, c'est assez étrange, parce que comment il sait que Tywin, c'était la France avec la Mandurois?
Bah, je pense que quand il a su que Robert était mort, il a fait
Comme il a dit, de toute façon, si...
je pense qu'il devait se douter que... Peut-être que, genre, il a visualisé Geoffrey sur le trône, il s'est dit qui serait sa main du roi. Il s'est dit, Tywin, s'il est encore vivant.
Non, mais je suis d'accord, mais... Tu vois, il a dit avec tant de certitude que ça paraît, tu vois.
Il est perspicace.
Troisièmement, que Janos Lint, le commandant du guet de Port-Réal, est à présent le seigneur d'Arrenhall. Il appartenait, enfin le château d'Arrenhall, appartenait avant à Shella Went, mais on sait qu'elle a dû rendre son château au Lannister parce que il n'y avait pas assez d'hommes pour protéger, quoi. Donc on rappelle que Shella Went, c'était la dernière de sa lignée, donc forcément il y a personne qui viendra se battre pour elle et pour la continuité de la continuité des Went à Arrenhall. Et du coup on ne sait pas trop ce qui est arrivé à cette Shella Went. On ne sait pas trop si elle a été capturée en tant qu'otage, si elle a été tuée. Voilà quoi. Les seules informations qu'on a, c'est qu'elle a dû rendre son château. Et en plus de cet anoblissement, Janos Lint siégera à présent au sein du conseil restreint. Donc pareil, lui son poste, comme tu l'as dit Guillaume, hein, c'est la famille. Des sortes de postes concrets.
C'est un peu les mêmes postes que Pénélope Fillon au gouvernement.
Les emplois fictifs.
Les emplois fictifs.
Et le coup de tonnerre s'abat dans la salle du trône lorsque Cersei Lannister relève Baris Anselmi, le lord commandant de la garde royale, de son commandement. Même si la garde se compose de frères jurés pour la vie. Mais selon Cersei, Barristan Selmy a trop bien servi, mais son âge lui fait à présent défaut, et d'autres assumeraient mieux ce rôle à présent. Comme son frère, Jaime Lannister, comme par hasard. Barristan Selmy en est estomaqué, et essaye d'abord de plaider sa cause. C'était Gerold Hightower en personne qui lui a fait prononcer ses vœux. Il avait combattu aux côtés du Taureau Blanc, donc le Taureau Blanc c'est le surnom de Gerold Hightower, du prince Lewin de Dorne. Donc on n'a jamais entendu parler du prince Lewin de Dorne. Donc, il viendrait de Dorne en fait.
Au jardin, bien sûr.
D'Arthur Dayne, l'épée du matin, et il avait servi sous trois rois. Jaehaerys II, sous Aerys II, et sous Robert Ier du nom. Mais ils étaient tous les trois morts. C'est vrai que bon, c'est pas très, voilà quoi, c'est pas très folichon de servir ces trois rois qui sont morts, sachant que, bon, les vœux que tu jures, c'est de protéger à la vie, à la mort ton roi, quoi.
Ouais. Jaehaerys, on sait pas comment il est mort, mais, Aerys et Robert, bon. Après, pas censé défendre contre des.
Ouais.
Des sangliers,
ouais. Des sangliers ou des traîtres. Mais... Enfin, en fait, il a servi même sur 4 ans, hein, parce que bon, le peu de temps qu'il a servi, sous Geoffrey Ier du nom. Hein.
Mais non, parce qu'il n'était pas encore.
Oui, le peu de temps, ça fait quoi? Peut-être 3 jours, 4 jours, une semaine, qui sait. Et surtout, c'est la nomination de Jaime qui le fait sortir de ses gonds. Comment ne pas le comprendre? Parce qu'on mettait le régicide à sa place.
Genre, en plus, le pire, c'est que Geoffrey lui fait le reproche: ouais, t'as même pas su protéger les rois sous lesquels t'as servi. Mais Jaime, il a fait pire, il a tué un roi. Genre en mode, c'est encore pire. Genre, il a pas su protéger. Jaime, il a pas su protéger deux rois. Lui, lui, c'est un roi de moins, mais. Genre, mais il en a tué un et sur les deux quand même.
Bah, parce que Jaime, on sait. Oui, non, oui. Non, mais c'est ça, ouais. Ça, c'est le comble du déshonneur. Hein. Non, en vrai de vrai, c'est chaud. Encore, on te remplace. T'es t'as le seum, tu vois, mais on te remplace par le régicide. Et tu sais, on s'était posé la question durant ce podcast, comment les chevaliers de la garde royale, ils réagissent, tu vois, à l'entrée de Jaime, enfin, je veux dire, au fait que Jaime soit présent à l'intérieur de cette garde, tu vois. Il salit un peu l'honneur. Mais c'est même pas un peu, c'est vraiment, il salit l'honneur en étant présent dans cette garde. Donc, moi, je me posais la question parce qu'on disait que Barristan, c'est quelqu'un d'assez droit, c'est quelqu'un que Ned qualifiait comme homme d'honneur. Donc, on voit bien que ça ne satisfaisait pas que Jaime était encore présent, mais sous la pression des Lannister, il a dû laisser faire.
La pression, lui.
Avant de s'en aller, Barristan Selmy se dévêtit de ses vêtements blancs et de son épée pour les balancer sur Geoffrey. Et là, je vais parler un peu de Sansa parce que je trouve que c'est intéressant. Qu'elle est intéressante parce que c'est un des seuls moments depuis le début du tome où on la voit compatir. Parce qu'elle se dit que le fait que les autres chevaliers de la garde royale rient de lui, parce qu'en fait Littlefinger fait des blagues sur le départ de Barristan Selmy, et bon, ta sœur, t'as les autres membres de la garde royale qui rigolent des blagues de Littlefinger, ça doit lui faire mal, quoi. Et en fait, plus globalement, on a vachement l'impression que, enfin moi en tout cas, et Guillaume, tu peux me tromper hein, si tu penses au contraire, mais qu'il y a un changement de son comportement du comportement de Sansa dans ce chapitre, que ce soit vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'elle puisse compatir de cette manière-là envers Barristan Selmy, et puis même le fait d'être repoussé, d'être traité comme une paria par les autres seigneurs, ça allait prendre conscience que voilà.
Oui, en fait, c'était difficile pour elle de comprendre les gens qui souffraient, parce que elle tout était parfait dans sa vie, quoi. Mmh. Et là, le fait de savoir ce que c'est la douleur, c'est plus facile pour elle de comprendre les autres.
Ouais. Dans un sens, elle se retrouve un peu dans la même situation de Barristan, c'est-à-dire que voilà, elle se retrouve seule, elle se retrouve acculée, elle voit que les gens autour d'elle sont des étrangers, etc. quoi. Et même vis-à-vis de Geoffrey, parce que si on marre bien dans ce chapitre, avant Sansa, quand elle pensait à Geoffrey, elle était persuadée en fait que c'était son roi, que c'était son prince charmant, etc. Alors que dans ce chapitre, on a plus l'impression qu'elle essaye de se persuader que c'est son prince charmant. Ouais. Et il y a plus cette certitude en fait, c'est qu'elle se dit il faut que ça soit mon prince charmant pour que je me sorte de cette situation, quoi. Mais tu sens qu'en fait elle sait que c'est plus le cas, ou en tout cas elle sait que c'est pas le cas.
Ouais, là, enfin on sent qu'elle a quelques doutes, quoi. Mmh. C'est vrai qu'elle se, elle se le persuade et dit non, c'est pas possible, c'est mon prochain nom, il fera pas ça. Ouais.
Ouais, donc son monde commence un peu à se craquer. Et bon, ça fait écho à ce que disait Littlefinger. Hein. Je sais plus ce qu'il se prépare à faire exact, mais le monde n'est pas un conte de fées, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Ou le monde n'est pas une jolie histoire, parce que je suis pas sûr que ça existe, les fées à Westeros, mais. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un changement. Je sais qu'elle était plus, elle avait une attitude beaucoup plus triste en fait, beaucoup plus fade. Mais c'est pas fade dans le sens elle a moins de personnalité, c'est juste que tu vois, j'ai l'impression qu'elle prend conscience qu'il y a des dangers autour d'elle. Mmh. Lorsque Barristan ne fut plus dans la salle, Geoffrey ordonna qu'on l'arrête. Il était selon lui un traître et avait peur qu'il ne se rallie à ses oncles Stannis ou Renly. Mais son départ avait laissé un trou dans la garde royale où Geoffrey et sa mère Cersei n'ont rien trouvé de mieux que de le remplir par Sandor Clegane, le limier. Alors qu'il était même pas chevalier. Et là, tu sens que même, je crois que c'est Ser Borzblum qui dit que, les membres de la garde royale ont toujours été chevaliers. Donc vraiment, tu sens qu'ils font, enfin, que Cersei surtout fait n'importe quoi pour réorganiser, que ce soit le conseil récent de la garde royale.
À partir du moment où tu déchires les testaments de Robert, je pense que...
Ouais, les institutions, c'est pas son problème.
C'est pas son problème.
Voilà, conseil récent, la garde royale, rien à foutre. Moi, je...
Genre en mode, il y a plus de poste au conseil restreint, c'est genre, c'est tu viens, tu poses ton cul et c'est tout. Genre un navire, machin, qu'est-ce qu'elle va foutre avec des navires, Cersei?
En fait, justement, Cersei, on l'appelle maintenant la reine régente, hein. Donc c'est elle qui, techniquement, prend les décisions à la place de
Geoffrey. Techniquement, elle prend la place de Geoffrey, ouais. Enfin, techniquement.
De Geoffrey.
Parce que Geoffrey, elle assure le rôle de Geoffrey.
Oui, en fait, elle assure le rôle du roi plutôt, parce que c'est la reine régente. Donc c'est ça que le rôle qu'elle prend à l'intérieur du conseil restreint. Quand on dit qu'elle a été remplacée par Stannis, c'est faux. C'est juste qu'elle entre dans le conseil restreint en fait.
Oui.
Mais par contre, si on fait un point sur les membres du conseil restreint maintenant, Guillaume, est-ce que tu peux
On a Tywin.
Tywin en tant que du roi.
Ouais. Cersei en tant que reine régente, Jaime Lannister en tant que on sait pas, grand-maître Pycelle, Varys, Littlefinger.
Ouais. Et du coup, c'est tout.
Et Jaime en tant que capitaine de la garde royale.
Et Jaime en tant que capitaine de la garde royale, c'est ça. Mais du coup, il manque un maître des lois, parce qu'avant ce poste était rempli par Renly, et un maître des navires, avant ce poste était rempli par Stannis.
Ouais.
Mais bon, t'as plus l'impression que, voilà, c'est des postes, c'est vrai qu'on n'a jamais vu le conseil restreint de ce qu'on a vu, en tout cas, depuis le début du tome, t'as pas l'impression que ce soit quelque chose de très construit. Juste des mecs qui se réunissent et qui disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Parce que, genre, Pycelle, il intervient, mais genre, ça n'a aucun rapport avec la médecine ou quoi que ce soit, tu vois. Ou la santé ou le public ou je sais pas quoi.
C'est un conseil des ministres, mais, tout le monde se réunit un peu sur tous les sujets. Donc, je crois qu'on a cité à peu près tout, Guillaume plutôt, a cité le conseil restreint qui existe actuellement. Et par rapport à la garde royale?
On a Jaime, Sandor Clegane, Bros Blount, Meryn Trant, Harris du Rouvre, Preston Greene Verchamp.
Et Mondon Moore.
Mondon Moore?
Et Mondon Moore, oui. Oui. Il y a un doux et tout.
On l'a zappé ce mec.
Mondon Moore, si, il était apparu. C'est lui, je sais plus dans quel chapitre, mais je crois qu'il est apparu dans un chapitre de Sansa, et je crois qu'il devait la... En fait, si, oui. Mondon Moore, on l'a vu parce que c'était un des gardes qui gardait dans le précédent chapitre, quand Ned a été arrêté, la citadelle de Maegor. Je crois qu'il gardait le pont-levis. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, au niveau de la chambre de Robert, c'était Barry Sansaemi et Harris du Rouvre, et au niveau du pont de la citadelle de Maegor, c'était Mondon Moore.
Ok.
Puis arriva la fin de la séance. C'était maintenant ou jamais, se disait Sansa. Alors, prenant son courage à deux mains, elle implora Geoffrey d'accorder la miséricorde à son père. Et là, on a déjà parlé avec Guillaume. Hein. Là, elle se dit que c'était sûr qu'elle allait faire parce qu'il l'aimait, parce qu'il était son prince, etc., etc. Enfin, maintenant parce qu'il était son roi. Mais les membres du conseil restreint n'étaient pas de cet avis. On avait déjà expliqué à Sansa que Ned avait le sang de traître, qu'il ne fallait pas faire pousser cette graine. Et l'attitude de Littlefinger à Varys, et surtout de Maître Pycelle, je la trouve détestable. de faire culpabiliser une enfant de 11 ans de cette manière-là, c'est vraiment du mindfuck psychologique, quoi. Non, mais voilà, c'est des adultes et tu sens qu'ils essayent de la pousser dans le retranchement, de la faire culpabiliser elle-même, de la retourner contre son père, et enfin, je trouve ça détestable. Même si, voilà, Sansa, elle a pas été, on a déjà craché beaucoup sur elle, hein, depuis le début. Mais, bon, ça fait toujours du mal quand des personnes qui ont de l'autorité victimisent une personne sous leur autorité, justement. Même si, on doit avouer que Varys essaye de façon voilée d'aider Sansa. Parce que, je crois que c'est Sansa qui dit que oui, ce qu'il a dit, il le pensait pas, que c'était sous le lait de pavot, qu'il était drogué, etc. T'as Varys qui dit oui, bon,
c'est la sagesse matin, sort de la bouche des innocents.
Donc, d'une manière, tu sens que Varys, et on sait que ça l'arrange pas trop, hein, toute cette situation, parce que avec Ilario, eux, ce qu'ils préféraient, c'était ralentir l'escalade entre les Stark et les Lannister. Donc là, bon, ils ont échoué à leur mission, parce que, bon, c'est déjà, Daenerys, elle est encore très loin, bon, Viserys est mort, hein. Daenerys, elle est encore très loin avec des Dothraki, même si, au chapitre précédent de Daenerys, Khal Drogo a prévu, d'aller conquérir Westeros, donc là, ça commence à s'accélérer de ce côté-là. Il faut toujours calmer le jeu, quoi. Et puis, on sait que Varys, il a été franc avec Ned, hein. C'est le seul même qui a été franc avec lui. Quand il a dit que, Robert était un imbécile, que tous les gens autour de lui voulaient du mal. On sait pas trop de quel côté est-ce que Varys, mais en tout cas, avec Ned, même si, voilà, là, il joue double jeu, avec Ned, il a été très franc. Cersei intervient alors, et elle répond sans ça que si Ned consent à confesser son crime et à jurer fidélité, peut-être accepterait-il de lui pardonner. Sansa quitte alors la salle du trône, pleine de joie, une occasion s'était présentée de sauver son père. Encore faut-il que Ned accepte de se repentir et de jurer fidélité à Joffrey, mais bon, quand on connaît la personnalité du gars, c'est pas gagné. Hein.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il va accepter de jurer fidélité à quelqu'un qu'il considère comme...
illégitime.
Voilà, comme avec illégitime, en bâtard, tout ce que tu veux, quoi. Même, c'est même pas en bâtard, en fait. Donc, quoi que c'est un bâtard.
Alors, il jure fidélité, à ceux qui ont tué son meilleur ami aussi.
C'est ça, donc, même si Sansa est en plus de joie là, ça va pas se faire, ce truc-là. Il faudra qu'elle réussisse à la convaincre, mais encore faudra-t-il aussi que Cersei la laisse voir son père.
Ouais.
On est terminé pour cet épisode. On espère que le chapitre vous a plu. Si vous voulez continuer l'aventure avec nous, ce sera sur les réseaux sociaux. Et pareil, vous pouvez nous noter ou commenter le podcast sur les différentes plateformes. En tout cas, on a passé un bon moment et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine.